4, 5, 17, 3, 2, 13 et 9. Vous restez sur Sud Radio pour évoquer avec Yann et son expert les rumeurs jusqu'à midi.
Merci Catherine.
Sud Radio, Sud Radio.
Yann Fernandez et les experts sur Sud Radio.
La rumeur, histoire et fantasme, Pascal Froissart qui vient de sortir cet ouvrage donc chez Belin. Pascal est maître de conférences, il est expert en la rumeur depuis quelques années et bien entendu au service de la communication, alors que ce soit dans les entreprises ou pour le grand public avec cet ouvrage, parce que ça nous permet d'en savoir un petit peu plus. D'ailleurs, vous avez un site internet qu'on mettra en ligne sur notre page des experts qui est très très bien fait et qui permet fourmille d'informations, et si vous êtes vraiment intéressé par le sujet, alors là vous aurez des informations, j'allais dire, plus détaillées, plus typées, plus exhaustives, hein, on va dire, sur la question, parce que c'est un universitaire, il va jusqu'au bout des choses. Si l'on parle de rumeurs, Pascal Froissart, il faut parler peut-être d'histoire de la rumeur. Est-ce qu'on a une date pour positionner l'invention ou la découverte de ce vieux média, puisqu'en fin de compte, c'est le plus vieux média du monde?
C'est une question effectivement qui mérite l'examen attentif, et je me suis attaché en fait à essayer de retracer l'histoire de la rumeur. Bizarrement, on pense que la rumeur, c'est quelque chose qui existe depuis toujours, qui est même peut-être le plus vieux média du monde, comme vous disiez tout à l'heure, qui fonde l'humanité. Je suis un petit peu plus, un peu plus perplexe devant cette idée-là, pour une raison toute simple, c'est que les théories sur la rumeur, elles, sont tout à fait récentes. Alors, ça n'a pas vraiment d'influence sur le fait qu'il est vrai, il y a bien longtemps que le phénomène de rumeur existe. En revanche, c'est tout récent. Alors, quand je dis tout récent, c'est le début du XXe siècle, c'est les années 1900. C'est que depuis ces années-là qu'on commence à faire des théories et qu'on commence en fait à prédire la rumeur, alors qu'auparavant on se contentait de la subir, ou on se contentait de dire que la rumeur publique faisait dire que ceci ou faisait dire cela, s'attachait en fait avant le XXe siècle, la notion de rumeur, le mot rumeur évoquait beaucoup plus le mot d'aujourd'hui que nous connaissons tous, de réputation, que celui de rumeur. C'est-à-dire aujourd'hui nous imaginons volontiers que la rumeur est quelque chose. C'est une parole qui a un effet, une parole qui a une conséquence, une parole même, quelquefois on parle de rumeur qui tue. Et cette idée-là de rumeur qui tue est une idée moderne. Nos amis, les Romains, les Grecs, et je ne sais pas qui d'avant. Peut-être les Égyptiens, ou même au Moyen-Âge, on ne parlait pas de rumeur dans ce sens-là, on parlait de rumeur.
Il y en avait quand même des rumeurs, c'est pas parce qu'on ne savait pas l'expliquer ou mettre un mot dessus que ça n'existait pas.
C'est tout à fait juste. Il n'en reste pas moins que, étant donné qu'on n'avait pas la théorie, c'est-à-dire qu'on n'avait pas cette idée que la rumeur se déformait et qu'elle allait avoir une conséquence obligatoire, on n'envisageait pas la réalité de la même manière. C'était vu aujourd'hui, que, pour reprendre donc cet exemple de la réputation, lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il a mauvaise réputation ou bonne réputation, on n'appelle pas un consultant pour qu'on rétablisse la réputation de quelqu'un. La réputation de quelqu'un, c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui vécu comme une sorte de fatalité ou une sorte de destin, enfin, ou une sorte de
déesse. Je pense à un ancien ministre qui s'est suicidé pour ce genre d'explication. Une réputation qui allait être ternie, son honneur qui était en jeu, et il ne pouvait plus le supporter. J'ai cru comprendre que c'était un petit peu le départ, ou en tout cas la goutte qui faisait déborder le vase chez ce monsieur.
Oui, et à nouveau, les journalistes là ont été fort incriminés dans cette histoire-là. Vous faites probablement référence à l'affaire Bérégovoy.
Exactement, oui.
Effectivement, l'ancien Premier ministre, on ne sait pas, hein, il n'a pas non plus explicité son geste, et un suicide est très rarement une conséquence directe des mots. À nouveau, c'est là où il faut mettre un grain de sel.
Mais ce ne sont pas les mots qui l'ont. Mais la rumeur qu'on évoque sur Pierre Bérégovoy peut être, également une raison valable pour d'autres qui, dans des petits villages, ont eu, par exemple, ces rumeurs qui se sont développées dans le village, des rumeurs accablantes sur l'honneur, sur des faits graves. Et évidemment, ces rumeurs ont poussé l'intéressé penser à des actes irréversibles.
Oui, vous avez raison. Mais de ce point de vue-là, la rumeur ne se distingue pas du ragot et de la, comment dire, de la réputation que chacun a. Nous avons tous une réputation dans notre cercle privé, en famille. Nous avons des réputations familiales, nous avons des réputations professionnelles. Dans un village, nous avons effectivement notre réputation, mais on n'est pas là dans l'ordre de la rumeur, au sens où justement les médias ne s'en saisissent pas. Le fait que, je ne sais pas, dans le milieu professionnel, on dise de vous que vous êtes un excellent animateur, ou de moi que je suis un détestable professeur, ou je ne sais quoi, ne font pas des informations dont les médias se saisissent. En revanche, effectivement, ça peut faire mal. La réputation de quelqu'un, une mauvaise réputation, peut faire extrêmement mal. Je ne crois pas non plus que nous soyons tout blancs et que nous pensions que tout le monde nous aime. Nous savons pertinemment, tous, autour du micro et autour de la radio, on sait tous que nous avons des ennemis, nous avons des amis, que tout le monde ne nous aime pas, et quelle que soit l'activité qu'on fait. La rumeur ne touche pas que les stars, elle touche tout le monde, elle touche... Et personne n'est dupe, on sait tous qu'on a une réputation, bon, et on s'en fait très bien. Alors, quelquefois, cette réputation-là est insupportable, et il arrive effectivement que des gens réagissent. Alors, le suicide est une étrange réaction, hein, il me semble, parce que je ne sais pas trop quel message ça envoie, et c'est donc extrêmement complexe, et pour moi, le suicide est d'abord et avant tout une maladie qui se soigne, donc je parle pas d'une personne en particulier, mais du phénomène lui-même. Je pense pas que donc le suicide soit causé par les mots. Le suicide, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, et effectivement, les mots participent d'un...
C'est la goutte, hein, je disais, c'est la goutte qui va faire déborder le vase, peut-être.
Oui, mais pourquoi donner plus d'importance à la goutte qu'au vase, hein,
Parce qu'elle arrive après, tout simplement.
Oui,
Le vase est plein à ce moment-là, et que la goutte, c'est celle qui va faire déborder, quoi.
À moins que ce soit plus facile à expliquer par la goutte que par le vase.
Oui, oui.
C'est assez facile.
Là, on va rentrer dans le domaine de même de conférence.
Oui, oui, on est reparti. Non, en fait, ce que je voulais dire...
Mais vous mettez deux passionnés l'un à côté de l'autre, ça y est, c'est plein. Alors, la rumeur. On va revenir sur quelque chose de très, très concret, si on a le temps, Xavier, sinon tu nous dis qu'on s'arrête. Et quand on t'ennuie, tu nous le dis, hein, et les auditeurs aussi. La rumeur d'Adjani, celle-là, ouais. Tout le monde la connaît, tout le monde l'a en tête, Isabelle Adjani, rumeur, elle est gravement malade. Je ne sais pas s'il y avait une maladie d'ailleurs très définie à ce moment-là.
Ah oui, ou oui, on parlait
oui,
du sida.
C'était le sida, hein, c'est ça, d'accord. Comme pour d'ailleurs Étienne Dao, hein, c'était le même principe. Étienne Dao aussi a été obligé de partir, s'exiler à Londres pendant un moment et fuyer tous les médias. Donc Isabelle Adjani, on rappelle, a cette rumeur qui se développe dans le monde du show business, comme on dit. Même nous en commençons à entendre parler, et puis ça se développe dans le domaine du grand public. Expliquez-moi, vous qui avez analysé cet exemple-là, comment c'est né, si on a découvert, et surtout comment ça s'est développé.
Oui, il faut que je vous dise en préalable que à la fois Étienne Dao et Isabelle Adjani n'apprécient pas tellement qu'on parle de ces exemples-là. Ils sont aujourd'hui, ils estiment avoir tourné la page ils trouvent étrange qu'on continue à parler de ces cas-là.
Enfin, ceci étant, on fait une émission sur la rumeur, on ne peut pas faire l'émission sans parler d'eux, puisque ce sont des cas quand même très, très médiatisés.
Oui, d'accord, mais excusons-nous, il faudra qu'on s'excuse après alors.
S'excuse avant de le faire, hein, voilà. On s'excuse et on dit bien que c'est une rumeur, donc que ce n'est pas fondé et que c'est faux.
Exactement. Ou plutôt que dans l'état actuel des choses, c'est faux. Hein. À nouveau, nous ne pouvons pas prétendre détenir la vérité. Mais effectivement, que ce soit l'un ou l'autre de ces deux stars, ils ont tous les deux intervenu dans les médias pour nier...
Pour démentir.
Donc, pour reprendre, disons, alors, l'exemple de la rumeur d'Adjani, qui dépasse en fait très nettement le cas de l'actrice elle-même pour... parler en fait d'une star dont on a prétendu la mort, ou la mort prochaine, ou la mort imminente. Il s'est trouvé que le cas Adjani est intéressant à étudier parce que l'actrice est intervenue quasiment d'autorité dans un journal télévisé de très grande écoute un dimanche soir.
Ah oui, le journal de 20h chez Bruno Mazur. Oui.
Voilà, et flanqué du président de l'Ordre des médecins d'une autorité médicale, d'une sommité médicale, pour affirmer que non, tout allait bien, merci, et qu'elle s'étonnait d'avoir à justifier de sa bonne santé, alors que, comme une sorte d'accusation finalement.
Oui, comme si elle était accusée de quelque chose.
Voilà. Et je pense qu'effectivement, d'une certaine manière, elle elle a bien fait au sens où au moins elle pouvait se, après cette émission elle pouvait se dire bah, j'ai tout essayé, après si la rumeur court encore eh bien c'est plus de mon fait, c'est vraiment j'ai tout essayé, j'ai démenti moi-même en
j'ai
direct,
la conscience tranquille.
Voilà. Ouais. Il se trouve qu'on a des chiffres que Jean-Noël Capferrère a collecté par la suite sur l'effet,
notre expert, ça, hein
oui, sur l'effet du démenti d'Adjani, et on s'aperçoit que le démenti lui-même a eu des effets mathématiques ou disons sociologiques tout à fait paradoxaux, au sens où avant la rumeur dans la population française, avant le démenti,
avant son passage télé, oui.
Voilà, on avait à peu près un quart de la population qui était au courant de la rumeur, et après son démenti évidemment on avait 85% de la population, donc autant dire tout le monde, ouais. Qui était au courant.
Ça veut dire que elle s'est peut-être rassurée, elle s'est peut-être retrouvée dans une conscience plus facile à gérer.
Voilà.
Dans le domaine psychologique, elle était mieux.
Exactement.
Avec elle-même. Mais par contre, au niveau de la rumeur, pour tuer la rumeur dans l'œuf, au contraire, elle l'a développée. Elle a mis de l'huile sur le feu.
Alors, elle l'a en tout cas diffusée. Et alors, donc ça, c'était le premier chiffre, c'était d'imaginer qu'en démentant, en fait, on diffuse la rumeur. Mais il y a quelque chose d'encore plus paradoxal et de plus étrange, moi, que je trouve très intéressant, effectivement, à étudier. C'est que sur la première partie de la population qui connaissait la rumeur avant le démenti, tout le monde ne croyait pas à cette rumeur. Il y avait à peu près, disons, entre un quart et un tiers de gens qui connaissaient la rumeur avant le démenti et qui y croyaient. C'est-à-dire qu'il restait quand même deux tiers de gens qui disaient, bah non, franchement, c'est une rumeur, c'est pas parce qu'on en parle que c'est vrai. Mmh. Après le démenti, il se trouve que, selon les chiffres qu'on a, on posait la question, est-ce que vous croyez maintenant, après le démenti d'Adjani, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, il restait encore entre un quart et un tiers de gens qui disaient, ouais, il n'y a pas de fumée sans feu, si elle est intervenue à la radio, à la télévision, on sait bien qu'il y a quelque chose à cacher, ou bien, oui, il y a des signes qui montrent que, etc. Donc il restait, après le démenti, environ la même proportion, un quart ou un tiers de gens qui continuaient à croire que c'était vrai.
La proportion, oui, mais pas sur le même nombre de gens.
Et voilà, c'est là l'effet mathématique du démenti qui est tout à fait pervers. C'est que la proportion de crédules à l'intérieur n'a pas changé, à l'intérieur des deux populations, c'est-à-dire avant et après, il y a à peu près toujours un quart de gens qui sont, ouais, qui pensent que c'est vrai, et trois quarts qui pensent que c'est faux. Mais le problème, c'est que le démenti a augmenté la taille du gâteau. Et donc, on est passé de un quart de gens qui y croyaient sur 25% de la population à un quart de gens qui y croient sur 85% de la population, et donc on a mathématiquement augmenté le nombre de gens qui croyaient.
On va faire une pause et on revient dans un instant sur l'explication quand même, sur ce cas bien précis de comment c'est né ou comment on pense que c'est né et comment surtout ça a commencé à se développer. Réponse dans un instant avec Pascal Froissart sur la rumeur.
Dis, tu la vois encore la tonne de truffes au chocolat qu'on a mangé à Noël?
Oh oui, je la vois. Enfin, je la vois surtout quand j'essaye de remettre mes jeux.